Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Franck Segonne, je suis un des pasteurs de cette église, on est quatre en fait. Et donc c'est moi qui ai l'honneur ce matin de présenter et d'officier pour cette cérémonie de baptême. Alors peut-être que vous êtes là pour la première fois dans une église évangélique, ben, soyez les bienvenus. Peut-être que vous avez été choqués en rentrant dans cette salle en disant « Ah, c'est ça l'église ?» Déjà, vous êtes rentré dans un hôtel, ensuite vous rentrez dans une salle et qu'est-ce que vous voyez ? Un jacuzzi ! Et honnêtement, la première fois, ça m'a fait bizarre. Quand je suis rentré dans une église évangélique, c'est un peu choquant. On s'imagine pas ça. Mais je peux vous dire qu'après avoir discuté avec beaucoup de baptisés, l'EIG, c'est l'église préférée pour les baptêmes. Parce qu'on peut choisir la température de l'eau. Et oui, il y en a qui se font baptiser dans les rivières, c'est très exotique. Avant, on avait même le droit dans le lac, maintenant, c'est plus autorisé depuis peu. Mais nous, on le fait ici et l'eau est à température choisie. C'est pas beau, ça. Donc, si vous n'êtes pas encore baptisé, n'hésitez pas. Pas aujourd'hui. On ne le fera pas aujourd'hui. Parce que nous ne baptisons que des disciples. En fait, la Bible nous donne, vous allez le voir dans quelques instants, un texte, enfin il y en a beaucoup, mais un texte qui nous clarifie pourquoi on baptise les gens et qui on baptise en fait. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas baptiser quelqu'un qui lève la main en disant « Ah, c'est sympa, l'eau est chaude, je vais... » Non. L'Église a la charge de baptiser des disciples de Jésus. Et donc on va regarder tout ça maintenant. Alors, vous savez, à l'entrée, sur la table où il y a toute la littérature, il y a des fiches comme ça que vous pouvez prendre. C'est des sujets de prière pour les baptisés. Et en regardant les choses, je me suis dit, waouh, ce matin, le Brésil a gagné 3-0. Ça vous rappelle rien, les Français, là, à la Coupe du Monde, on chantait ça. 1 et 2 et 3-0. Ben, aujourd'hui, c'est le Brésil qui a gagné, les amis, hein. Donc il va falloir vous bouger les Français et les Suisses et tous les autres, parce qu'il y a beaucoup de nationalités dans notre Église, mais le Brésil est majoritairement représenté aujourd'hui et depuis plusieurs baptêmes. Et donc on se réjouit vraiment. Mais on ne voudrait pas que notre Église devienne brésilienne non plus, d'accord ? Donc il faut que l'Église, c'est toutes les nations. On doit atteindre toutes les nations. Et là je regarde... Un Suisse, franco-suisse, marié avec une dominicaine. Ok, ça c'est bien, il y a des Africains. On a beaucoup de pays qui sont représentés dans notre Église et on s'en réjouit. Et vous allez comprendre pourquoi on s'en réjouit en lisant ce texte avec moi. Je vais prendre ma télécommande. Voilà. Et donc le premier texte, le seul qu'on va regarder ce matin, parce qu'on n'a pas 10 ans, alors ça va fonctionner. Voilà. C'est un texte que Jésus, enfin c'est Jésus qui parle, qui est écrit à la toute fin de l'évangile de Matthieu. Jésus a vécu sur terre, il a été arrêté, il a été crucifié, 3 jours après il ressuscite, il reste une quarantaine de jours sur cette terre, et juste avant de monter au ciel, il va donner ses consignes. Donc c'est d'extrême importance. Hein, quand quelqu'un va s'en aller, les dernières paroles qu'il prononce sont très importantes et on doit en tenir compte. Et c'est là où il va donner cet ordre de baptiser. Alors regardez avec moi, j'ai mis quelques versets en plus pour avoir des éléments de contexte. Les 11 disciples, parce qu'il y en avait 12 à la base, mais un qui les a trahis, qui s'appelait Judas. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, et pas du Brésil seulement, hein, toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà un des textes majeurs, quelque part, pour l'Église, parce que c'est notre mandat. Et donc, je vais juste décrire quand même quelques éléments du contexte. Ensuite, on va regarder je ferai quelques remarques sur le texte. Juste avant ce texte-là, on apprend que les 11 disciples étaient très probablement entourés de nombreux autres disciples. Et ça, on le sait en lisant 1 Corinthiens 15, ça c'était le message de Pâques. On sait que Jésus a été vu au moins par 500 personnes à la fois. C'est-à-dire que c'était un grand rassemblement, et on pense, la plupart des commentateurs pensent que c'était à ce moment-là. Donc il y avait les 11, effectivement, mais il y avait aussi au moins 500 personnes. Et donc, on a des gens qui voient Jésus et qui l'adorent. Ça, ce sont probablement les gens qui ont vu le Christ ressuscité. Marie, on fait des signes, je ne comprends pas. Bon, vous viendrez me voir pour me donner un message clair, parce que les messages codés avec des signes, je ne comprends pas. En fait, je disais qu'il y en a qui l'adorent, donc il y avait probablement les femmes qui l'ont vu. Quand il est ressuscité, après le tombeau, elles ont vu le tombeau ouvert, elles l'ont rencontré. Pierre a vu le tombeau vide. Les disciples ont mangé à un moment donné avec lui sur la plage. Ils mangent avec Jésus. Les disciples d'Emmaüs, eux, ils ont discuté avec lui. Et donc, on voit ces personnages. Et puis, Paul, il dit qu'il y a aussi 500 personnes. Et donc, c'est probablement ces 500 personnes. Mais sur 500 personnes, on n'a pas notre foi équivalente. Et donc, il y en a qui vont l'adorer, la plupart des gens. Donc, on pense qu'une grande majorité l'adorait, mais vous avez vu, quelques-uns eurent des doutes. Je ne sais pas si vous croyez à la résurrection. Un mort, après plusieurs jours, commence à sentir qu'il ressuscite. Un mort en décomposition qui se remet à vivre. Ce serait assez intriguant, hein ? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans une morgue. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir ma maman dans une morgue, elle était là, couchée. On avait l'impression qu'elle dormait. Et puis après, on a fait une cérémonie. Imaginez, 3 jours après, je la croise dans la rue, en train de faire son footing. Ouf ! J'aurais un peu de mal à y croire. C'est vrai. Et je pense qu'il y avait des gens qui avaient du mal à y croire. Sauf ceux à qui Jésus avait dit, vous savez, je vais souffrir, je vais mourir. Et 3 jours après, je vais ressusciter. Il l'avait annoncé. Jésus avait annoncé qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, ces gens se sont souvenus à ce moment-là, ils ont dit, moi, je vois que ce Jésus-là, c'est Dieu incarné. Et donc, ils se sont agenouillés, ils ont adoré Jésus. Mais il n'y avait pas que ça. Dans la masse des gens, il y avait aussi des gens qui ne croyaient pas, qui avaient besoin peut-être d'être convaincus. Et donc, en voyant ces gens, peut-être qu'ils ont changé d'avis, mais il y en a qui ont douté. Et ça fait partie de la vie, le doute. Et des gens ont suivi Jésus. Je ne sais pas si vous lisez l'Évangile, vous voyez que Jésus, à un moment donné, il interpelle les foules et il les regarde et leur dit « Mais vous, vous me suivez parce que je vous donne à manger ou parce que je vous guéris. C'est par intérêt que vous me suivez. » Et il faut être honnête. Hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas plus aujourd'hui, quoique ma tendance naturelle irait dans ce sens, c'est que je viens à Dieu quand j'en ai besoin, hein, quand je ne vais pas bien, quand je reçois une tuile sur ma tête, hein, ça c'est métaphorique, quand on reçoit une épreuve, quand on traverse quelque chose de difficile, on va s'adresser à Dieu. Et puis là, on commence à lever le poing en l'air quand tout ne va pas bien. Hein, mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Toi là-haut, qu'est-ce que tu fais ? Et on va lever le bras. On va lever le bras en signe de rébellion. Et ça, c'est le signe, le symptôme qu'on n'est pas connecté avec notre Créateur et que notre relation est probablement du deal. Ok, tant que tout va bien, je ne m'intéresse pas à toi. Par contre, si quand ça va mal, tu pouvais me donner quelque chose, et du coup, on prend Dieu comme une sorte de distributeur automatique. Vous avez besoin d'argent, vous allez au distribanque, vous mettez votre carte, vous faites votre code, et vous avez de l'argent. Et on a un peu cette relation mercantile avec Dieu. La plupart des humains sur la planète fonctionnent comme ça. Ça, c'est quand on n'est pas connecté avec Dieu. On cherche Dieu par intérêt. Bien souvent, c'est même plus violent que ça. C'est qu'il y en a qui ne cherchent pas Dieu, non seulement ils ne le cherchent pas, mais ils vivent comme s'il n'existait pas, toute leur vie. Et ça ne les perturbe pas plus que ça. Ou d'autres qui ont une relation avec Dieu, mais particulière. Ils se sentent coupables. Ils ont peur de Dieu. D'autres vont sentir un poids de culpabilité, la honte. et ou l'indifférence. Et vous voyez, c'est à peu près tous ces éléments-là, ces émotions qu'on peut ressentir, c'est le fruit de la chute, c'est le fait qu'on n'est pas connecté à Dieu. Ce ne sont que des symptômes. Et en fait, lorsque Jésus est venu ici sur Terre, il est venu régler le problème de fond. Si je vous donne un aspirine alors que vous avez un problème cardiaque, je vais améliorer votre situation pendant un temps. Vous aurez moins mal à la tête, mais je ne vais pas la solutionner. Et donc Jésus n'est pas venu à donner un aspirine aux humains, il est venu régler le problème. Le problème de fond, c'est un problème de cœur. Il faut que notre cœur change. Si on ne change pas le cœur, les symptômes, on va pouvoir les faire varier, plus ou moins, mais à un moment donné, on va retomber dans nos travers. Hein ? Chasser le naturel, et qu'est-ce qui se passe ? Il revient au galop. Ah oui, allez, je vais essayer de plus être égoïste. Ça marche au moins une heure. Allez, deux si vous êtes bon. Trois si vous êtes discipliné. Quatre si vous êtes entraîné depuis des années. En fait, on est égoïste par nature. Ça, c'est le signe, le symptôme qu'on n'est pas connecté avec notre Créateur et qu'on a un problème de connexion. C'est un peu si vous avez un Wi-Fi à la maison ou même sur votre téléphone. Vous savez, quand il n'y a plus cette connexion, là, on voit, ça tourne en rond. Et il y a une petite recherche, mais ça n'aboutit jamais, en fait. C'est pas parce que Dieu, il n'envoie pas de signal. Lui, il émet constamment au travers de la création. Il nous envoie des messages. Quand vous regardez la nature, vous savez, cette semaine, j'ai eu le privilège, j'ai passé mon permis moto, j'ai été à la fois dans la montagne et on est allé au bord du lac. Et je me suis dit, waouh, on est presque au paradis. J'ai dit presque, parce que je me suis quand même fait mal. Et là, j'ai dit, ah non, tu es encore sur terre. Mais vous voyez, Dieu nous donne ces éléments. Et quand j'étais dans la nature, comme ça, je me disais, waouh, c'est fantastique. Est-ce que vous avez déjà essayé de dessiner un paysage ? De faire vivre ce paysage, c'est plus compliqué déjà. Hein ? Dessiner une montagne, c'est de bons dessinateurs. On a une super dessinatrice ici. Céline, elle peut vous faire un portrait et vous allez dire, waouh, ça ressemble vraiment à toi. Mais maintenant, demande-lui de sourire au portrait. Ça va être plus compliqué. Parce qu'il est figé. On ne peut pas donner la vie. Et voyez, c'est Dieu qui nous insouffle la vie. Dieu nous envoie des messages. Mais notre récepteur Wi-Fi, notre récepteur spirituel, j'appelle ça le Wi-Fi, on ne le voit pas, mais notre cœur, il est endommagé. Et donc, on doit avoir une réparation. Et lorsque Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu guérir les symptômes, il est venu guérir le cœur. C'est ça qui l'intéressait. Et la mission principale de l'Église, mes amis, ce n'est pas de venir à Jérusalem ou de mener une campagne pour gagner Jérusalem ou même pour faire le bien dans le monde. Si vous avez regardé, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas éradiquer la pauvreté, ni sauver la planète de la pollution ou manger bio, s'engager dans un parti pacifiste, lancer des croisades pour reprendre Jérusalem, créer un État chrétien en mettant un président évangélique à la tête du pays. Ce serait fantastique, n'est-ce pas ? Toutes ces initiatives ne sont pas forcément mauvaises, il y en a qui le sont clairement. Mais ce n'est pas ça le cœur de la mission. Le cœur de la mission, vous l'avez lu comme moi, c'est de faire des disciples. De faire des disciples. Faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission de notre Église. Et vous savez que lorsqu'on vient dans notre Église, on fait plein d'activités. Parce que la Bible ne nous interdit pas grand-chose, à vrai dire. Elle nous donne des commandements, quelques-uns, elle nous donne des principes pour vivre notre foi, mais elle nous donne surtout des attributs, des éléments qui nous permettent de connaître Dieu. Et c'est en connaissant Dieu qu'on priera mieux. C'est en connaissant Dieu qu'on fera mieux le bien. C'est en connaissant Dieu qu'on va mieux servir. Mais vous voyez, on part toujours de la connaissance de Dieu et ensuite, ça va avoir des implications sur le reste. Mais ça part du cœur, en fait. Donc nous, on n'est pas là pour faire du comportementalisme. On n'est pas là pour dire aux gens, vous devez faire ci ou vous devez faire là. Bien sûr, il y a quelques commandements qui nous donnent des directives, et c'est bien. On a besoin de ça. Hier, je lisais un article sur des gens qui ont essayé de jouer au foot. Et il y a quelqu'un, il n'y avait pas d'arbitre, il est arrivé en retard. Du coup, on a pris quelqu'un dans la foule, on lui a dit, écoute, tu ne voudrais pas être arbitre. Et il a dit, oui, mais moi, je n'ai jamais joué au foot. C'est pas grave, nous, on sait jouer, t'inquiète. Ok, il commence à jouer, et puis au bout de 3 minutes, boum, esclandre, parce qu'il y en a un qui avait défini une ligne qu'on ne voyait pas, parce que c'était dans un champ vague, et il avait dit, ça, c'est la ligne médiane. Donc, si on dépasse là, il y a touche, là, il y a corner, là, vous voyez. Et en fait, l'arbitre, il a regardé, oui, si tu veux. Et finalement, au bout d'un quart d'heure, tout le monde a commencé à se friter, parce qu'il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de règles. Et quand l'arbitre officiel est arrivé, il a pris tout le monde, il a dit « Ok les amis, vous voulez qu'on joue au foot ? Alors moi je vais définir les règles. Voilà, là ça c'est la ligne de but, là c'est le milieu du terrain. » Et il a défini lui-même les règles et le match s'est très très bien passé. Donc vous voyez que les règles, elles sont nécessaires, on en a besoin. Mais ce n'est pas ça qui va nous aider forcément à avoir une relation avec Dieu. D'accord ? Mais les règles sont nécessaires. Donc c'est pour ça que Dieu les donne. On a des règles, mais on a surtout ce principe de vie et Dieu vient changer l'état de notre cœur. Ça, c'est le plus important et c'est notre mission en tant que chrétien, en tant qu'Église, transformer des cœurs. C'est Dieu qui fait la transformation, mais nous, il transforme par la prédication de sa parole. Pas par la prédication de la parole de Franck, vous voyez, du pasteur. Moi, j'essaye de vous enseigner la Bible et je peux vous dire... ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur, bientôt 25, eh bien, je vois des transformations. Moi, je suis un petit peu une sage-femme spirituelle. J'accouche les gens et je vois, waouh, j'ai un miracle devant mes yeux, régulièrement. C'est extraordinaire. C'est le plus beau métier du monde, si vous voulez être pasteur, j'embauche. Mais en fait, c'est ça ce qu'on est appelé à faire, transformer le cœur. Et après, effectivement, on va transformer la société. Mais on n'a pas fait du comportementalisme, on a travaillé le cœur. Et quand la personne aime Jésus, quand elle devient un disciple de Jésus, quand elle veut aimer Jésus et lui obéir, alors sa vie change et son comportement change. Vous voyez ? Donc il y a bien une relation, mais on a traité le problème de fond. On n'a pas agi sur les symptômes, on a d'abord traité le problème de fond, qui est un problème de cœur. La semaine dernière, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Daniel Arnold. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Il a eu un sévère AVC il y a quelque temps. Et donc, il était paralysé complètement d'un côté. C'est un écrivain, cet homme. Et donc, on était très tristes parce qu'il a 70, 75 ans, je pense, aujourd'hui. Non, plus, moins. Ouais, à la louche, 70, 70. Et en fait... il a cet AVC et on a cru qu'il était condamné, hein. On a prié pour lui, il a fait du coma, enfin bref. Et là, je le vois une pastorale en face de moi, il pétait la forme. Je dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, bon, l'AVC s'est bien résorbé et il se trouve qu'il avait une pompe artificielle. Donc il y a eu une intervention sur son cœur parce qu'il avait des valves qui ne fonctionnaient plus. Et donc cette machine-là envoie des impulsions et fait pomper le sang à sa place. Et donc, il a une assistance. Et alors, je lui dis, waouh, mais tu as l'air en pleine forme et tout, du coup, tu as repris ton ministère ? Oui, oui, d'ailleurs, si tu veux, je peux venir prêcher chez toi. Alors, je lui dis, ok. Donc, on a pris, j'ai pas encore la date, mais j'ai envoyé l'invitation. Et donc, vous voyez, il peut vivre aujourd'hui parce qu'il a une assistance. Et Dieu ne nous laisse pas tout seuls. Si vous avez lu le texte avec moi tout à l'heure, vous vous souvenez de ce qui était marqué ? Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok. Mais Jésus, il allait monter, quelques secondes après, il allait monter au ciel. C'est qui ? Je serai avec vous tous les jours. Qu'est-ce qu'il a fait à votre avis ? Est-ce qu'il est revenu ? En chair ? Et en os ? Non. Il a envoyé son esprit. Et à la Pentecôte, il envoie son esprit sur ses disciples pour transformer les cœurs. Donc aujourd'hui, on ne voit plus Jésus, mais on voit la manifestation de Jésus dans une vie. Et c'est ce que vous avez ici, ce texte, qui annonce des siècles avant la venue de Jésus, ce que Jésus va opérer à la Pentecôte. Regardez le texte. « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Vous voyez, c'est une métaphore, mais c'est vraiment le centre de nos pensées, de nos motivations profondes. C'est le cœur, en fait. Ce qui est décisionnel, volitif, tout ce qui nous aide à prendre des décisions, ça vient du cœur. Et Dieu, il dit, ok, tu as un problème de cœur, eh bien, je vais venir et je vais changer ton cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes inscriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Mes amis, Dieu, il vient nous donner une pompe spirituelle pour faire fonctionner. Mais pourquoi ? Pour qu'on observe et pratique ses ordonnances. Parce que les règles, on a beau les connaître, on ne les met pas toujours en pratique. Qui a eu un PV ? Non, levez pas la main. Je ne suis pas de la police. Mais on a tous eu des infractions dans notre vie. Et je ne suis pas fier de ça, mais malheureusement, j'en ai aussi. Côté français, côté suisse. Et en fait, ce n'est pas parce qu'il y a des radars que je vais les mettre en pratique, mais j'ai un assistant. Et par contre, quand j'enfreins la loi, je le sais. Intérieurement, j'ai une petite alarme qui se met en marche. Hein ? C'est pas sonore, mais je le sais. Vous aussi ? Vous avez fait cette expérience-là ? Votre conscience. Si notre conscience, elle est bien réglée, c'est une sorte de boussole, hein ? Si on l'a bien axée sur l'écriture, eh bien on sait quand on enfreint la loi. Eh bien le Saint-Esprit est là pour nous assister, pour nous rappeler qui est Jésus, mais aussi pour nous aider à mettre en pratique la Bible. Et donc vous, qui avez fait le choix de suivre Jésus, vous êtes devenu un disciple parce que le Saint-Esprit est venu habiter en vous et qui vous assiste. Et moi, j'ai vu Irani et David, la première fois qu'ils sont arrivés dans l'église, je peux vous dire que ce n'étaient pas les mêmes personnes. J'ai vu des gens méfiants. Tiens, c'est bizarre, le pasteur, il prêche sans cravate. Désolé. J'ai essayé de chercher dans la Bible, je n'ai pas trouvé un verset qui me disait « Le pasteur doit prêcher en cravate ». Je n'ai même pas d'ailleurs trouvé de verset qui dise que « Le pasteur doit prêcher ». Mais ça, c'est autre chose. Mais, en tout cas, vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent vous choquer. Mais quand j'ai vu Irani et David, ils n'étaient pas les mêmes personnes. Hier soir, on a eu l'occasion de discuter et je vois des gens transformés. Mais moi, je n'ai rien fait. Nous, on n'a fait qu'accompagner. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a enseigné la Bible, on a été des modèles pour eux. On a prié pour eux, on a vu le fruit de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Et regardez David, je le vois de là, il sourit Irani, elle est plus petite, elle doit être derrière une tête. Ah, je la vois là. Et ils auront l'occasion de nous le dire, ce qui s'est passé réellement dans leur vie, dans quelques instants. Mais je vais juste faire quelques remarques supplémentaires sur les disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'avance. Je fais une petite remarque ici. Un disciple, c'est quoi ? Un disciple, vous avez vu ici, c'est une BD. En grec, c'est mathétès, c'est-à-dire un apprenti. Un apprenti. C'est quelqu'un qui va apprendre quelque chose d'un maître pour le mettre en pratique. D'accord ? Donc, ce n'est pas stérile. C'est une connaissance. Effectivement, ça passe par notre intellect, mais ça va passer par le cœur. Et ensuite, on va le mettre en pratique. Ce n'est pas le but de remplir le cerveau seulement. On remplit notre cerveau, on mémorise la Bible, mais c'est pour mieux mettre en pratique, pour mieux connaître Jésus, et donc pour mieux lui ressembler. Et toute la vie chrétienne, toute la vie d'un disciple, ça va être de ressembler à son maître. Et vous savez, Irani, David et Marcos, ce matin, vous n'êtes pas encore arrivés. Comme moi. On est sur le chemin et je reste, en tant que pasteur, un apprenti. Je suis un apprenti au même titre que vous. Mais je suis un apprenti depuis plus longtemps que vous. C'est la seule différence. Donc j'ai un peu plus d'expérience. Donc je suis sur le même chemin que vous. Et c'est pas des followers, les amis. Hein. C'est pas comme les gens qu'on voit sur TikTok, on les admire, mais on fait pas comme eux parce qu'on peut pas faire comme eux. Ils roulent dans des grosses voitures avec des grosses gourmettes en or et ils font lâcher les billets. C'est pas ça, être un disciple de Jésus. C'est ressembler à Jésus. D'où l'importance de lire la Bible, de passer du temps dans la Bible, pas forcément à écouter le pasteur. Oui, bien sûr qu'il faut l'écouter le pasteur parce qu'il enseigne la Bible, mais c'est d'abord dans l'écriture que vous allez trouver la quintessence de qui est Dieu, en fait. Lisez un évangile. Si vous êtes là pour la première fois, moi, je vous encourage à lire un évangile. Je suis né dans une famille non pratiquante J'ai découvert l'évangile à l'âge de 22 ans. J'étais bouleversé dans mon lit en lisant l'évangile de Matthieu. J'avais commencé par l'Ancien Testament et je me suis perdu dans les Lévitiques. C'est compliqué dans les sacrifices. Et on m'a dit, mais non, mais commence par le Nouveau Testament. Alors j'ai dit Nouveau Testament, tac, Matthieu. Et là, je lis Matthieu et j'ai pleuré en voyant ce qu'on avait fait à Jésus. Littéralement, on a crucifié un homme, on l'a flagellé, on l'a martyrisé. Et même celui qui a commandité, il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Moi, j'ai rien contre lui. C'est simplement parce qu'il a osé dire et osé faire des choses que les religieux de l'époque n'ont pas acceptées. Il sortait de la norme. Il guérissait des malades le jour du Shabbat. Vous imaginez, un dimanche matin, faire un miracle de quelqu'un qui souffre? Il ne faut pas faire ça. C'est le jour du Shabbat, tu ne dois pas travailler. Mais Jésus, il est au-dessus des lois, c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et donc, au lieu de regarder le cœur et de ce que Jésus faisait, de regarder le fond, ils ont regardé la forme et ils ont constamment essayé de le piéger. Et ils n'y sont pas arrivés. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Un faux procès, fausses accusations. Et là, on a réussi. On y arrive toujours, les amis. On arrive toujours à nos fins. Toujours. Quand on est mal intentionné, on trouve toujours quelqu'un qui va rentrer dans notre petite combine. Et ça a marché. Mais Dieu, vous inquiétez pas, il est au contrôle de tout ça. Il savait exactement qui allait le trahir depuis le début. Il savait que c'était Judas. Il savait qu'il allait être maltraité par les religieux. Il l'a dit, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc il n'y a pas de surprise pour Dieu. Et volontairement, il s'est laissé arrêter. Volontairement, il est resté sur la croix, alors qu'il aurait très bien pu se décrocher de cette croix en claquant des doigts. Il aurait pu faire tout ça, mais il avait une mission. Jésus n'était pas venu pour faire du tourisme ici-bas. Il n'était pas venu que pour faire du bien. Il était venu pour changer le cœur des humains. Lorsqu'il est venu, il a été effectivement cloué sur une croix. Et ça, c'est un symbole, les amis. Il a été cloué en tant que malfaiteur alors qu'il était innocent. Il a pris notre péché à sa place. Il a pris ton péché, ton égoïsme, ta peur, ta honte. Il l'a pris avec lui sur la croix. Il a pris tous tes péchés. Il les a cloués à la croix. Ensuite, il est mort parce qu'il a pris ce péché-là. Dieu a regardé le sacrifice et il a dit « Ok, je valide ». Lui n'avait jamais péché, il était innocent, je valide. Et qu'est-ce qu'il a fait 3 jours après? Il a ressuscité son fils. Et ça, c'est la preuve ultime que Jésus est non seulement vainqueur de la mort, il a vaincu la mort, parce qu'il est passé de la mort à la vie, et si il a vaincu la mort, c'est qu'il a aussi vaincu le péché, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si Jésus est vainqueur de la mort, il est aussi vainqueur du péché. Et donc, s'il y a une personne qui peut guérir votre problème de fond, c'est Jésus. Personne d'autre sur la planète n'est revenu à la vie. Personne. Seul Jésus.